auditeurs de Radio Nîmes, bien le bonjour. Eh bien, ce matin, dans le cadre des élections municipales de 2026, des 15 mars et 22 mars prochains, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Sanchez, Julien de son prénom, donc pour la liste Fier d'être Nîmois. Julien Sanchez, bonjour.
Bonjour.
On est heureux de vous accueillir. On a d'abord merci d'avoir accepté notre invitation.
Avec plaisir.
Alors, j'ai votre programme sous les yeux. On va donc parler de votre programme. Mais pour commencer, je voudrais parler de la première page, les deux premières pages de votre programme, où vous faites le point sur la situation à Nîmes, en particulier sur le fait qu'il y a un désaccord à droite et que pas mal d'anciennes de l'équipe Fournier vous rejoignent. Apparemment, c'est quelque chose d'important pour vous, ce qu'on peut comprendre.
Oui, c'est vrai que j'ai été assez triste de voir la succession de Jean-Paul Fournier, en fait, parce que la logique était quand même que il s'est quand même battu 25 ans. La logique était que ses successeurs se montrent à la hauteur et fassent l'union. Ils n'ont pas réussi à le faire. Il y a eu une division en deux listes, et c'est ça qui aujourd'hui fait prendre le risque aux Nîmois d'être dirigé par les communistes. C'est ce qui a fait que je me présente, parce que j'ai vu le risque arriver et je me dis il faut qu'il y ait quelqu'un en face qui a à la fois l'expérience, j'ai déjà été maire 10 ans, quelqu'un qui a l'énergie, le dynamisme, et je pense que nous avons un socle d'électeurs à Nîmes qui est important. Donc il faut, face aux communistes qui vont faire un très gros score au premier tour, eh bien qu'une autre liste fasse aussi un très gros score. Vu la division de la droite, je pense que c'est nous qui pouvons faire ce gros score. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, j'ai été rejoint et rallié par beaucoup de membres de la majorité sortante, mais je n'ai pas pris des fainéants, j'ai pris des travailleurs. Monique Boissière, qui était déléguée notamment en relation avec l'armée, qui était présente sur toutes les cérémonies militaires, qui est quelqu'un vraiment qui travaille énormément. Christine Tournier-Barnier, qui est avocate, qui est quelqu'un d'assez intraitable et très consciencieux, et puis également Marc Tollel, qui est bien connu, qui était docteur à Nîmes, et de toute façon, quand on est docteur, on prend jamais sa retraite de toute façon, donc qui sont des gens très travailleurs. C'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est d'avoir des gens bosseurs. Et là, j'ai vu que Marie-Chantal Barbus et Catherine Géhanneau, qui étaient quand même déléguées aux seniors, déléguées au CCAS, bien connues aussi de tous les Nîmois et notamment des seniors, m'ont aussi soutenu. Elles étaient présentes au meeting que j'ai fait avec Jordan Bardella. Elles étaient avec moi sur les Halles dimanche pour distribuer mes tracts. Et ça me fait plaisir, oui, d'avoir des gens de droite qui se disent « il y a un risque communiste, le vote utile, c'est le vote Sanchez, allons-y et faisons-le dès le premier tour ».
Vous pensez réellement que la liste bougée va faire un très gros score au premier tour ?
Oui, je pense, parce qu'il y a quand même un électorat de gauche qui est important à Nîmes. Ils ont fait de très très gros scores, et notamment dans les quartiers de Nîmes. Donc je crois qu'ils seront autour de 30% au premier tour. Ça me paraît raisonnable de le penser. Il y a aussi une liste de la France Insoumise, donc à eux deux, ils font entre 35 et 37%. Et donc il est important que le Rassemblement National soit aussi autour de 30% et soit nettement devant Monsieur Proust et Monsieur Plantier, parce qu'il faut encore une fois qu'il y ait une dynamique qui se crée. Et moi, ce qui me rassure, c'est qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui demandent à me voir depuis quelques semaines, qui ont compris la situation, qui ne veulent pas des communistes parce que le candidat communiste l'a dit, il veut moins de tourisme à Nîmes, avec lui, je veux dire, ce serait la chasse aux chefs d'entreprise, moins de sécurité aussi, il l'a dit, puisqu'il veut mettre moins de moyens sur la sécurité, il est plus pour la prévention. Il faudra m'expliquer, quand on en est à tirer à la Kalachnikov devant une école, est-ce que c'est un stage de citoyenneté qui va faire prendre conscience à ceux qui tirent à la Kalach devant une école? On est plus sur la prévention, là, on est sur des actes graves, et il faut quelqu'un qui retrousse les manches et qui met des moyens humains et matériels et qui donne les bonnes consignes aussi à la police municipale, parce que les policiers municipaux, c'est pas des sous-policiers, c'est des policiers qui ont des prérogatives. Ils peuvent constater en flagrant délit, ils peuvent interpeller. Moi, quand j'étais maire de Beaucaire, 90% des interpellations dans la commune, c'était les policiers municipaux qui les faisaient, puisque la police nationale n'était presque jamais présente dans la commune. Eh bien, là aussi, il faut pas se contenter de se reposer sur la police nationale et sur l'État. Il faut que la police municipale ait des moyens, des effectifs pour faire le boulot.
Eh bien, comme ça, ça fait une bonne transition. On va tout de suite parler de votre projet et du premier engagement qui est sur la sécurité. Vous dites que vous voulez ramener le nombre de policiers à 300 au cours du mandat, ce qui fait 137 de plus actuellement, je calcule. Donc la première année, vous allez en recruter combien si vous êtes maire de Nîmes?
Vous
avez fait une estimation?
Oui, je pense que sur la première année, il faut quand même déjà augmenter d'une cinquantaine assez rapidement, parce qu'il y a des besoins. Encore une fois, s'il y a bien une priorité dont tout le monde me parle dans la rue, quand on m'arrête, on me parle vraiment de ce sujet-là, c'est la sécurité. Que ce soit des femmes qui me disent je n'ose même pas aller courir aujourd'hui dans le bois où j'allais courir parce que il y a des problèmes de sécurité, donc je suis obligé de choisir les lieux où je vais courir. Que ce soit des parents qui vous disent quand mes enfants sortent le soir à Nîmes, je suis inquiet et j'attends qu'ils m'envoient un SMS, etc. Enfin, c'est pas normal tout ça. Donc il faut effectivement des moyens. Pourquoi est-ce que je parle de passer de 163 policiers municipaux, c'est le nombre au 1er janvier, à 300 sur le mandat? Parce que dans toute ville qui met la sécurité en avant, il y a des villes de droite qui le font notamment, que ce soit Cannes, Nice ou autre, c'est en général 2 policiers pour 1000 habitants. On a 150 000 habitants, il faut donc 300 policiers à Nîmes. Aujourd'hui, on en a 163, c'est un très mauvais taux. C'est 1 pour 1000 habitants, c'est très faible pour une ville de droite. Et donc, oui, il faut mettre des moyens. Et oui, c'est faisable. Moi, je l'ai fait encore une fois quand j'étais maire. J'ai plus que doublé les effectifs. Et ça a permis donc d'avoir des policiers 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui est le cas à Nîmes aujourd'hui. Mais force est de constater qu'ils sont pas assez nombreux, notamment la nuit. C'est souvent la nuit que se passent les problèmes, donc il faut plus d'effectifs la nuit. Et il faut aussi, ça c'est mon souhait, affecter chaque policier à un quartier. Parce que là, les policiers, ils vont de quartier en quartier au fil des interpellations et ils ne connaissent pas les quartiers. Moi, je pense qu'un policier qui est affecté à un quartier, il connaît les habitants, il sait qui pose problème, il sait dans quel immeuble il y a des gens à problème, il sait qu'est-ce qu'il doit surveiller, et c'est comme ça qu'on arrivera à lutter contre le fléau de l'insécurité. Et puis, enfin, il faut harceler les délinquants, harceler les dealers, harceler ceux qui pourrissent la vie des gens. Il faut que la peur change de camp, et pour ça, il faut des effectifs sur le terrain. C'est évident qu'avec 163 policiers, on ne peut pas faire du bon travail.
Donc, en fait, vous compensez les défaillances de l'État.
Oui.
Sur ce plan-là, c'est un pouvoir régalien. Normalement, ça relève de la compétence de l'État, qui est plutôt défaillante dans ce cadre-là.
Vous avez raison. Je le regrette parce que, encore une fois, j'ai été maire et j'ai beaucoup regretté que l'État abandonne en fait ses missions premières. Quand on voit que sur la police, malheureusement, il n'y a pas assez d'effectifs, pas assez de moyens. Quand on voit que sur la santé, qui n'est pas du tout une prérogative des mairies, maintenant, on se repose sur les maires pour créer des maisons médicales, des maisons de santé pluridisciplinaires. Mais c'est pas notre boulot normalement, ça non plus. Et donc on le fait parce qu'il y a eu le numerus clausus et parce que l'État n'a pas fait son boulot pour qu'il y ait des médecins aujourd'hui. Et donc c'est au maire maintenant d'aller payer des secrétaires à des médecins, d'aller leur payer les locaux. Tout ça c'est aberrant, mais c'est la démission de l'État. Mais voilà, après, comme je suis d'accord avec vous sur le constat, mais faisant ce constat, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit c'est le rôle de l'État, il fait pas son travail, donc laissons les choses mal tourner? Ou est-ce qu'on prend les choses en main? Moi, je pense qu'il faut qu'on prenne les choses en main. C'est ce que n'a pas fait, malheureusement, M. Proust, et c'est ce que n'a pas fait M. Plantier. Aujourd'hui, ils nous font des belles promesses. Bon, écoutez, ça fait 25 ans qu'ils sont en responsabilité. S'ils avaient voulu mettre des moyens sur la sécurité, ils l'auraient déjà fait.
En matière de finances, donc, la taxe d'habitation a été supprimée il y a quelque temps déjà.
Oui.
Ça fait l'unanimité contre, d'ailleurs, je crois, parce que c'était une des rares recettes que percevaient directement les mairies.
Oui.
Donc maintenant, en fait, cette recette dépend du bon vouloir de l'État, on va dire. Et donc 75%, j'ai lu, des recettes des collectivités, des mairies, sont compensées par l'État. Donc dépendent de l'État. En fait, c'est un moyen de pression de l'État, c'est un peu de la centralisation, non?
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, alors c'est vrai que moi, ce que je regrette, en fait, c'est que tout repose aujourd'hui sur les propriétaires, parce que c'est la taxe foncière maintenant qui finance effectivement les communes. Donc c'est vrai que c'est assez injuste, parce que tout le monde est utilisateur de sa commune, qu'on soit locataire ou propriétaire. Bon, maintenant, c'est le choix qu'a fait l'État et qu'a fait Emmanuel Macron, et c'est ce qu'il a fait, donc ça s'applique. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qui est fait de l'argent public, de nos impôts. Et là-dessus, je pense qu'il y a un énorme travail à faire parce qu'il y a beaucoup de gaspillage. Donc moi, je suis pour analyser chaque euro dépensé. Mon réflexe, c'est de me dire, voilà, cet argent, si c'était le mien, est-ce que je le dépenserais de cette façon-là ? Et bien souvent, quand on se pose la question comme ça, on dit non et on a une exigence importante. Et il faut cette exigence. Et dans chaque dépense publique, il faut se dire, est-ce que c'est le bon prix qu'on paye ? Est-ce que c'est le bon service ? Il faut analyser tout ça. Il ne faut pas se dire, oui, il y a de l'argent. Non, non, oui, effectivement, le budget de Nîmes chaque année, c'est 400 millions d'euros. Mais ce n'est pas parce que c'est 400 millions d'euros qu'il faut dépenser à tort et à travers. Donc, il faut bien analyser chaque dépense. Il faut remettre en concurrence. Je vous donne un exemple. Quand j'ai été élu maire, moi, à Beaucaire, il y avait un budget photocopieur, par exemple, pour la ville, qui était de plus de 100 000 euros. J'ai remis en concurrence. Et pour le même nombre de photocopieurs, je suis arrivé à un peu moins de 50 000 euros. Donc, vous voyez, simplement, parfois, le fait de remettre en concurrence, de reconsulter les entreprises, on tire les prix en ayant le même service et avec cet argent qu'on économise, soit on peut baisser les impôts, soit on peut réinjecter cet argent économisé dans des dépenses qui sont plus nécessaires, plus utiles, comme la création de policiers municipaux, etc. C'est ce que je ferai donc à Nîmes.
D'autant plus que quand on prend en charge une ville, on se rend vite compte que le budget, il y a entre 70 et 80% de dépenses contraintes, obligatoires,
oui.
Et que la marge de manœuvre est quand même réduite.
Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas promettre n'importe quoi aux gens. Donc, quand j'entends, moi, les communistes et la France insoumise promettre les transports gratuits, quand j'entends M. Proust, qui est finalement le troisième candidat communiste de cette élection, nous promettre les cantines gratuites à Nîmes, c'est 2,5 millions d'euros par an. Je ne sais pas si on se rend compte, 2,5 millions d'euros par an, la mesure annoncée en catastrophe là, par M. Proust pour essayer d'avoir des voix supplémentaires. 2,5 millions d'euros, c'est énorme, c'est n'importe quoi. Je crois qu'avec ces 2,5 millions d'euros, on ferait mieux, par exemple, de mettre la climatisation dans les écoles. Parce que quand on voit les enseignants, les enfants qui sont toute la journée dans des lieux où il fait très chaud dès le mois de mai et il faut supporter cette chaleur quand même, hein, ici chez nous, on sait que les températures se réchauffent. Donc vous voyez, ces 2,5 millions d'euros que M. Proust veut mettre sur les cantines gratuites, moi je préfère les mettre dans un plan climatisation, je préfère les mettre dans des travaux parce que c'est 2,5 millions, mais sur 7 ans. Hein, donc au final, c'est plus de 15 millions d'euros qui seront mis par M. Proust sur ce sujet-là. Moi, je préfère le faire dans le quotidien des enfants et le quotidien des enseignants.
Alors, dans le cadre de ce projet, dans le cadre de vie, par exemple, j'ai vu que vous voulez affecter un agent municipal à chaque comité de quartier.
Oui.
Ouais. C'est une mesure qui me paraît intéressante.
Oui, alors je pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai tourné dans beaucoup de comités de quartier, parce qu'il y a beaucoup de comités de quartier à Nîmes. J'ai vu que la municipalité actuelle était souvent très mal reçue parce qu'ils ont fait beaucoup de promesses et qui n'ont pas été tenues. Moi, je ne veux pas attaquer sans arrêt la municipalité sortante. Il y a eu des belles choses qui ont été faites, notamment le maire a fait beaucoup de grands projets. C'est vrai que l'esplanade, les arènes Feuchères, c'est magnifique. Le classement de la Maison Carrée au patrimoine de l'UNESCO, c'est une victoire formidable. Maintenant, je pense qu'il faut aussi que le prochain maire soit le maire du quotidien des habitants. Et je constate dans les comités de quartier que les gens nous disent, voilà, on fait des demandes, on n'a pas de retour. Ou alors on nous dit oui, et puis un an après, c'est toujours pas fait. Donc c'est pour ça que je propose d'affecter un agent municipal à chaque comité de quartier, pour qu'il y ait un meilleur suivi des doléances et des demandes des habitants et des quartiers, et qu'il y ait un suivi derrière. Parce que souvent, les élus viennent tout seuls aux réunions, et une fois que la réunion est finie, ils vont sur autre chose, et puis ils donnent pas suite aux demandes qui ont été formulées. Donc non seulement il faut que les agents de la ville viennent à ces réunions de quartier pour répondre aux présidents, dans le comité de quartier et aux habitants, avec les élus, pour noter aussi ce sur quoi les élus s'engagent et qu'il y ait un suivi derrière et que ce soit fait, parce que c'est pas le rôle de l'élu de tout noter sur un papier. Je veux dire, on est sur une ville de 150 000 habitants, on n'est pas dans un village de 300 habitants. Et donc, il faut qu'il y ait un suivi et il faut pour ça qu'il y ait des agents qui soient en lien avec les élus. Que les élus, évidemment, derrière relancent, hein, parce que c'est aussi le boulot des élus de relancer, de faire en sorte que les choses soient faites. Mais pour ça, il faut quand même des moyens. Et aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a pas assez de moyens sur le suivi des doléances des habitants. C'est un point noir.
Eh bien, écoutez, je pense qu'on va faire une petite pause musicale pendant 2 ou 3 minutes. N'est-ce pas ? Alors, Sydney, si tu veux nous envoyer la musique choisie par Monsieur Sanchez.
it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah.
Eh bien, après ce petit morceau de musique, donc vous allez nous dire deux mots, puisque Monsieur Sanchez, c'est vous qui l'avez choisi.
Oui, alors c'est vrai que je défends la chanson française, mais là, en fait, on est en campagne électorale, donc on m'a proposé de choisir une chanson. J'ai pris celle-ci parce que les paroles, c'est unstoppable, donc on ne peut pas m'arrêter. Et donc, je n'entends pas m'arrêter, j'entends aller jusqu'au bout et j'entends gagner. Et donc, voilà, je donne rendez-vous d'ailleurs dimanche et le dimanche suivant aux électeurs pour se bouger, parce que ça ne se fait pas seul, hein. Il faut évidemment que les électeurs se déplacent et on est à leur disposition. Voilà.
Tout à fait, donc c'est une chanson qui motive bien, quoi, hein.
C'est ça, je trouve qu'elle est entraînante. Moi, ce que je regarde souvent dans les chansons, c'est pas toujours les paroles, c'est le rythme, la dynamique, et là c'est la dynamique qui me plaît. Et puis là, c'est vrai qu'il y avait le côté inarrêtable qui me plaisait aussi.
On va aborder un sujet, c'est la santé, la solidarité. Vous indiquez une disposition dans votre programme, c'est que vous pensez, pour lutter contre les déserts médicaux, financer les études en médecine des futurs médecins et leur proposer en fait un contrat pour qu'ils restent sur Nîmes. Après, je trouve que c'est, compte tenu de la situation au niveau médical, c'est quelque chose qui peut être intéressant, en effet.
Oui, alors pour le développer en quelques instants, c'est vrai que on l'a dit tout à l'heure sur la sécurité, ouais. J'ai parlé de la santé aussi. C'est vrai que c'est pas le rôle des communes normalement, c'est vraiment le rôle de l'État, la santé publique. Donc, et là, c'est vrai qu'on attend beaucoup des communes, donc il faut trouver des solutions innovantes. Moi, je vous avoue que je suis assez choqué que sur Nîmes, il y ait ce besoin-là aussi aujourd'hui, parce que c'est quand même une grande ville. C'est incroyable que ça devienne un désert médical, notamment dans certains quartiers. Et puis, il y a beaucoup de départs en retraite qui vont encore arriver. Donc oui, la solution qu'on peut proposer, en dehors des solutions nationales sur le numerus clausus, etc., au niveau local, je pense que c'est en payant donc une somme aux étudiants en médecine pendant leurs 3 dernières années, ce qu'ils s'engagent en signant un contrat, en contrepartie, à venir sur la même durée, donc 3 ans, sur le territoire de Nîmes. Et puis généralement, une fois qu'ils sont là et qu'ils sont là 3 ans, ils restent après. Donc vous voyez, c'est un échange de bons procédés. On les aide à financer la fin de leurs études. Et en échange, lorsqu'ils ont fini leurs études, ils viennent sur la même durée, donc 3 ans, s'installer sur le territoire de Nîmes. Ça nous fera des jeunes médecins qui viendront et j'espère qu'ils seront là pour de nombreuses années.
Est-ce que vous avez étudié la partie finance sur ce dossier? Vous
oui.
avez chiffré plus
oui,
ou moins
oui, tout à fait, parce que c'est une mesure que, pour ne rien vous cacher, que nous avions aussi mis en place sur la communauté de communes de Beaucaire-Terre d'Argence avec Juan Martinez, qui était le président de la communauté de communes, qui est
maire du
Parti
Bellegarde,
Socialiste, qui est maire de Bellegarde. On était tous d'accord à l'unanimité sur cette mesure, parce que ça a produit des effets. Donc si une communauté de communes comme celle de Beaucaire, qui a beaucoup moins d'argent que Nîmes, a pu le faire, et ça a fonctionné, puisqu'il y a des médecins qui se sont installés sur Jonquière-Saint-Vincent, sur Fourques, sur Bellegarde et donc sur Beaucaire également. Je pense que c'est une bonne mesure et personne ne le fait. Alors tout le monde paye un local, tout le monde paye une secrétaire, mais je pense que là, tout le monde fait ça, donc ça n'est plus efficace. Là, s'adresser aux étudiants en médecine, en échange d'une installation, c'est gagnant-gagnant, puisqu'on les aide pendant leurs études, et ensuite, ils nous rendent l'appareil en s'installant. Donc je pense que c'est une méthode gagnant-gagnant, et c'est positif.
Oui, tout à fait. On va continuer pour aborder un maximum de projets. Donc, le développement économique, je crois que à ce sujet, hier après-midi, il y avait une réunion organisée par les étaliers,
oui.
Où vous étiez. Où...
C'était M. Gillet qui me représentait, qui est un de mes colissiers, qui est député
du Gard. Oui. Et donc, vous devez être au courant de ce qui s'est dit.
Bien
et quelle
sûr.
Est votre position, la position de votre liste sur ce problème des étaliers,
alors,
avec les travaux qui se déroulent sur
oui.
les Halles et qui posent apparemment un problème aux étaliers?
Oui, moi je suis assez choqué en ayant encore une fois été moi-même maire, qu'on laisse pourrir une situation jusqu'aux élections, alors que ce sont des acteurs économiques. Des acteurs économiques, normalement, il faut les rassurer, il faut leur donner une visibilité parce qu'ils ont des employés, ils prennent des risques financiers. Donc il ne faut pas les laisser dans cette situation-là. Donc il aurait fallu gérer ce problème avant les élections et pas que ça vienne comme ça jusqu'aux élections. Qu'est-ce qui se passe aux Halles de Nîmes? Alors déjà, on rappelle que c'est un poumon économique du centre-ville, qu'il faut le conforter et qu'on a de la chance d'avoir des Halles qui fonctionnent bien comme ça, avec beaucoup de gens qui y viennent. Les Nîmois sont contents de les fréquenter. Donc il faut maintenir ce lieu, évidemment. Alors la situation, c'est que les Italiens actuellement ont une convention d'occupation qui va jusqu'en 2029. Et ils ne savent pas s'ils pourront rester après ou s'ils devront partir. La mairie leur dit on va devoir remettre en concurrence, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont devoir partir. Moi je dis qu'il y a une autre solution, c'est de déclasser du domaine public les Halles de Nîmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est du domaine public de la commune. Nous voulons que ça devienne du domaine privé de la commune, ce qui permettrait d'éviter d'avoir à faire une mise en concurrence, puisqu'on pourrait faire un bail en direct avec les étaliers actuels pour garder les étaliers actuels et faire en sorte qu'on rassure les acteurs économiques qui ont quand même donné de leur temps et de leur argent dans ces Halles et qu'on les maintienne. Ensuite, il y a la question des travaux des Halles. Sur la question des travaux, je pense que là, il faut quand même être transparent. Aujourd'hui, on n'a pas les éléments. La mairie ne communique pas sur ce sujet. Je pense qu'il faut que nous ayons les éléments, qu'on y travaille avec les étaliers et qu'on fasse des travaux qui gênent le moins possible les étaliers. Les étaliers, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent garder l'âme des Halles, ils ne veulent pas d'un lieu aseptisé, et donc ils veulent qu'on fasse les travaux qui sont nécessaires, mais pas plus, et qu'on n'ait pas des travaux qui durent 2 ans avec les Halles fermées. Ça, c'est pas possible pour des acteurs économiques. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Il faudra, si on fait des travaux, les faire également de nuit, les faire également dans un temps le plus court possible. Ça, c'est possible. La seule chose qui ferait que ce ne soit pas possible, c'est qu'il y ait de l'amiante. Là, je ne sais pas s'il y en a. Je n'ai pas accès aux études, mais c'est tout ça qu'il va falloir regarder dès mon élection, et en associant les étaliers, ça j'y tiens, parce qu'il faut qu'ils sachent ce qui se passe, voilà.
Oui, c'est important que les Halles de Nîmes fonctionnent normalement, parce que je trouve que déjà le centre-ville est plus ou moins désert, on va dire. L'après-midi, je suis passé deux ou trois fois, je suis surpris. Moi, j'étais au lycée Daudet dans les années 60-65. Quand on sortait, il y avait un monde de fous en ville. Maintenant, c'est plutôt désert. Mmh. Alors, si en plus, les halles venaient à fermer, ce serait catastrophique.
Ah oui, non, mais ça, c'est hors de question. Il faut vraiment que ces halles, on les maintienne. En plus, vraiment, on a des gens dynamiques, on a des gens bien. Les étaliers ont vraiment envie d'aider la mairie, ont envie de travailler en partenariat. Donc, je pense qu'il faudra que je m'occupe de ce dossier aussi moi-même, que je le suive pour rassurer aussi les étaliers, parce que c'est vrai que là, ces dernières années, ils avaient des versions différentes entre l'élu au marché qui disait un truc, le premier adjoint qui disait un autre truc, le président de la métropole qui disait encore autre chose. Voilà, ça a duré des mois et des mois, cette histoire-là. Enfin, maintenant, il faut arriver à une solution. Et donc, pour moi, ma solution, c'est le déclassement du domaine public. Ça prend quelques mois, puisqu'il faut nommer un commissaire enquêteur. Il y a des délais. Il faut réunir un conseil municipal, deux conseils municipaux. Mais c'est faisable légalement. Et il faut aller vers cette solution-là et avancer pour donner une visibilité aux acteurs économiques.
Je vais vous poser une question, parce que vous avez parlé de l'agglo. Pour vous, le maire de Nîmes doit être président de l'agglo ?
Oui, pour moi, oui. Oui, parce que pas par goût du pouvoir. Parce que de toute façon, vous savez qu'en France, les indemnités des élus, elles sont écrêtées, c'est-à-dire qu'il y a un maximum, au-delà de ce maximum, vous pouvez plus rien toucher. Donc, de toute façon, maire et président de l'agglo, on dépasse largement le maximum, donc on est plafonné. Donc, c'est pas pour des questions ni d'argent, ni de pouvoir, c'est pour une question de cohérence.
D'efficacité.
Et d'efficacité, parce que moi, ces dernières années, on a connu la guéguerre entre Lachaud et Proust, puis la guéguerre entre Proust et Plantier. Ils étaient du même parti, ils étaient de la même majorité, et pourtant, demander au service de l'agglo et aux employés de l'agglo, c'était une catastrophe, c'était ingérable, c'était à couteau tiré. Donc je pense que si c'est la même personne, à moins que j'ai un dédoublement de personnalité, normalement ça devrait bien se passer.
D'accord. Eh bien, on va terminer sur quelque chose qui vous intéresse aussi, que vous défendez, c'est la culture et les festivités et traditions.
Ah oui. Oui, c'est un sujet important. Moi, j'ai été assez choqué de voir que dans une ville comme Nîmes, qui est la capitale du Gard, qui est quand même un département de tradition, on n'est pas beaucoup finalement de taureaux dans les rues. Et ces taureaux dans les rues, je pense que c'est aussi nos traditions. Donc, il faut défendre les deux traditions, la tradition et la tauromachie espagnole, parce qu'il faut pas avoir honte. Je veux dire, on a des arènes, elles sont là depuis des années. Il faut en être fier. Il faut mettre en avant ces traditions parce qu'elles sont belles. Et il faut aussi défendre la course camarguaise et les taureaux dans les rues. C'est ce qui se fait dans toutes les communes gardoises et il faut faire connaître ces belles traditions. Ça crée aussi du lien, vous savez, hein, ça rassemble les générations, ça transmet aussi ces traditions, il faut les faire vivre, le patrimoine doit être vivant et donc c'est aussi le rôle d'une commune que de soutenir ces initiatives, d'en organiser dans plusieurs quartiers, pas seulement autour des arènes, pas seulement en centre-ville. Il faut que les traditions elles rayonnent partout dans le département, dans la ville et dans le département du Gard.
Eh bien écoutez, on n'a pas eu le temps de parler du sport, etc., mais le temps qui nous était imparti est arrivé. Je vous remercie d'être venu, d'avoir répondu à nos questions, et puis bonne journée, bonne continuation.
Merci à vous aussi, merci.